RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, bienvenue sur RMC et RMC Story pour discuter, pour débattre avec qui ? Avec les grandes gueules, les amis, nous sommes là en direct jusqu'à midi. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Charles Consigny, l'avocat et des nôtres, bonjour Charles.
Bonjour à tous.
Joël Dagosséry, la coach de vie est là, bonjour Joël.
Bonjour à tous.
Nous sommes avec Emmanuel Devilliers, le chef d'entreprise, bonjour mon cher Emmanuel.
Bonjour Alain, bonjour Olivier.
Avant de vous donner le programme des GG des grandes gueules, la prime de match, vous avez entendu le montant de la prime de match que l'on vous fait gagner, 77 500 euros.
D'ailleurs, elle n'est toujours pas tombée là, depuis
mais
un
non,
moment.
Là. Et alors, aujourd'hui, il y a un coup de fil d'ici 20h dans toutes les émissions. Ça peut même tomber dans les GG pendant que vous écoutez. Si on vous appelle, il faut donner le montant exact et ces 77 500 euros sont pour vous. Vous avez le temps de vous inscrire encore en envoyant but par SMS au 732-16. But par SMS au 732-16. Restez à l'écoute. Si votre téléphone sonne, dites 77 500 euros. Et c'est pour vous. Si ça tombe pas aujourd'hui, il y a encore des matchs ce soir.
Ça commence à être un sacré montant.
Bah, et ça grandit de 500 euros à chaque but.
C'est grâce à Dembélé, notamment, aux 3 buts.
Oh, magnifique. Le triplé de Dembi. Bon, soyez à l'écoute. 77 500 euros, c'est pour vous. Allez, je vous donne le programme des GG, le programme des grandes gueules. Que va-t-il se passer dans les grandes gueules aujourd'hui? Beaucoup de sujets de discussion qui vont vous faire réagir. Nous serons tout à l'heure avec un médecin, un professeur. Il est le patron du SAMU à Paris. C'est le professeur Adnet pour faire le bilan de cette canicule, alors qu'on nous en promet une autre d'ici 10 jours normalement. La ministre de la Transition écologique, Madame Barbu, qui persiste et signe la clim. Est-ce que ça va empêcher les animaux de mourir? Est-ce que ça va empêcher la terre de se réchauffer? Coup de gueule contre la clim. Est-ce que nous on peut pousser un coup de gueule contre Madame Barbu, la ministre de la Transition écologique? Mais d'abord on va s'intéresser malheureusement à des faits divers dramatiques et à des accusations de récupération politique. Laurent Nunes, le ministre de l'Intérieur, reproche aujourd'hui à des formations politiques, au Rassemblement National notamment, de récupérer les morts de Louis, de Liana, d'Elias, de Thomas, de Lola. Écoutez, Laurent Nunes, dernière tragédie en date, le lynchage mortel de Louis.
On m'a interrogé pour me demander si je considérais qu'il y avait un ensauvagement. Donc j'ai redit que je trouvais que ce terme avait une connotation extrêmement violente et j'ai dit qu'il y avait une exploitation de cette affaire. Bon, je vous renvoie aux déclarations de M. Éric Zemmour hein, sur cette affaire qui a parlé de nécessité de remigration. Enfin, il a fait un lien très direct avec l'immigration. C'est précisément cette déclaration que je visais. Il y a une exploitation qui a été faite ou par des groupuscules d'ultra-droite. Je n'ai pas voulu rentrer dans ce débat, dans ce terme qui est connoté, encore une fois, politiquement. Mais par contre, je dénonce très fermement ce drame.
Alors, il y a le lynchage de Louis et il y a les accusations ensuite politiques portées par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunes.
Oui, en citant Éric Zemmour, il l'accuse donc de récupération politique. C'est assez curieux parce que Laurent Nunes semble plus choqué par l'utilisation du terme d'ensauvagement, qui a selon lui une connotation, par les termes d'Éric Zemmour que par le drame en lui-même, puisque ce qui, à mon avis, a choqué les Français, c'est ce qui est arrivé à Louis, ce jeune homme de 17 ans qui était quand même roué de coups, battu à mort dans un guet-apens filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. Ce drame qui vient après la mort de Thomas Crépol, de la petite Liana, de Lola, d'Elias, et à chaque fois c'est la même rengaine, c'est-à-dire ceux qui nous dirigent disent attention, pas de récupération politique. Éric Dupond-Moretti le disait à l'époque lorsqu'il était garde des Sceaux, mais le problème c'est que les politiques ils sont là pour trouver des solutions, pour répondre à des situations qui se présentent à eux. Et quand même, l'ultra-violence des jeunes, c'est un vrai sujet, c'est un débat. L'impunité que semblent avoir certains, c'est un vrai débat. Donc si les politiques ne peuvent pas réagir, qu'est-ce qu'on fait? Alors on attend, alors il faut attendre un mois, deux mois, trois mois, et est-ce qu'il y a un délai de décence? La famille, je rappellerai simplement que la famille du jeune homme en question, de Louis, a elle-même voulu médiatiser l'affaire. C'est elle qui a fait diffuser les vidéos. Le père, d'ailleurs, de Louis témoigne ce matin sur BFM TV. Donc, la famille n'a pas envie de se taire et M. Nunes, peut-être, devrait l'entendre.
32-16, pour en parler avec les juges, est-ce qu'il y a une récupération politique indécente? Vous nous le dites, Joël.
Mais je considère, moi, pour ma part, qu'il n'y a pas assez de récupération politique au sens noble du terme. Il y a des commentaires, des analyses, des invectives, ce que tu veux, mais de la récupération politique, telle que j'entends, ça veut dire analyser les causes d'un drame et agir sur ces causes, réformer ce qui a réformé, mettre des moyens là où il y a des moyens. Pour moi, il n'y en a pas, il n'y en a clairement pas assez. Donc, je demande au contraire à ce qu'il y ait beaucoup plus de récupération politique au sens noble du terme et un peu moins de commentaires, de tweets, de chercher à se mettre en avant, etc. Là, sur l'ensemble des enfants dont on parle, parce que malheureusement, bah là, on ne cite que des enfants qui sont morts sur notre territoire. On fait une sorte de gloubi-boulga, mais il y a plusieurs niveaux d'implication pour moi. Il y a par exemple Liana et Elias qui ont des implications directes de la justice et donc de l'État français, des implications des qu'on peut même qualifier d'erreur à un certain niveau quand même, notamment même. Pour ou de faute, notamment pour Liana, qui sont des implications directes de l'État. Donc moi j'attends justement dans ces deux dossiers notamment où l'État est impliqué directement, c'est-à-dire que les décisions qu'il a prises ou n'a pas prises ont entraîné la mort de ces deux enfants. Là, l'État doit faire de la récupération politique. Donc Monsieur Nunes, oui. Plus de récupération politique. J'attends des annonces concrètes, des réformes concrètes qui permettront moins de Liana, moins d'Elias, par exemple.
Le problème, c'est que après, la tentation du politique, c'est de pondre une loi, d'annoncer une réforme, un peu dans l'émotion. Bah, on sait que ces lois émotions sont pas toujours les meilleures.
Non, mais ils n'ont pas besoin d'émotion parce qu'il y a des tonnes de rapports. Je veux dire. Là, on marche plus à l'émotion. Oui, il y a eu des tonnes de rapports. Il y a des trucs qui calent les pieds des armoires à n'en plus finir. Donc, pas besoin d'émotion. On déterre des rapports et on applique, en fait, les recommandations de la Cour des comptes ou de je ne sais quel organisme que nous payons des milliards et des milliards. Et c'est simple. Donc, moi, il y a pas besoin d'émotion. Je veux dire, il y a tout ce qu'il nous faut. On a tous les faits qu'il nous faut. Ensuite, il y a des implications un peu moindres de l'État. Par exemple, Lola, on sait que c'était une OQTF. Mmh. D'accord? Donc, il y a une application d'une décision qui n'a pas été, qui n'a pas été faite.
Même voilà. Louis.
Bah
oui,
Louis pareil. C'est... Il était dans les mains de l'État, voilà, donc vraiment hébergé par l'État. Donc, alors là, Monsieur Nunes, il est sympa, mais l'État est carrément impliqué dans ces cas-là. Donc,
il le dit. Cette affaire ne pourra pas nous exonérer de nous interroger sur la prise en charge des enfants dans des structures comme celle de l'aide sociale à l'enfance. Donc, il dit quand même, il faut y réfléchir.
C'est pas ne pourra pas nous exonérer. On est obligé de s'en occuper. Attends.
Charles consigne, maître consigne.
Je suis d'accord avec Joël. Le point commun de toutes ces affaires, ou de quasiment toutes, de tous ces drames, c'est que très souvent, c'est l'État qui a failli. Souvenez-vous de Philippine assassinée par un OQTF. Souvenez-vous de donc effectivement Liana assassinée par quelqu'un qui était visé déjà par plusieurs plaintes. Louis effectivement assassiné par des jeunes alors qu'il devait être protégé par l'État. Et ainsi de suite, il y en a eu d'autres. Donc certes, c'est vrai, maintenant le monde politique se jette comme la misère sur le bas clergé.
Lui, il vise l'extrême droite. Il vise Éric Zemmour. Il l'a nommé d'ailleurs.
Hein. Ouais, mais là,
c'est groupes plus ultra-droite.
C'est là qu'il a peut-être tort parce que, pour le coup, c'est sans doute dommage. Enfin, je sais pas comment on peut le prendre, mais pour le coup, ces drames donnent raison au discours de gens comme Éric Zemmour. Il faut dire les choses comme elles sont. Philippine, elle est assassinée par un mec qui est visé par une OQTF. Si l'OQTF avait été exécutée, elle n'aurait pas été assassinée. Vous pouvez le prendre par tous les bouts que vous voulez, ça donne pas raison à la gauche. Ça donne plutôt raison au discours de gens comme Éric Zemmour. Donc, moi, je pense que c'est un mauvais angle. Je me souviens par exemple du débat entre Éric Zemmour et Raphaël Glucksmann, où Zemmour a brandi ses prénoms. Je trouvais que... Moi, je comprends qu'on le fasse, si vous voulez. Ce sont des drames qui choquent énormément les Français et qui ont le sentiment à chaque fois que ce sont justement l'inaction et la nullité d'une certaine classe politique qui est incapable de prendre des décisions tranchées, qui est incapable de faire fonctionner l'administration, et qui est incapable de prendre des lois appliquées, qui conduit à ces drames. Donc je comprends la colère des Français là-dessus. Je dirais moi peut-être trop de récupération politique globale, mais il faut pas se tromper. C'est-à-dire que le cœur du sujet, c'est comment ces drames ont-ils pu se produire.
Emmanuel De Villiers.
Alors pour revenir à la prise de position insolite du ministre de l'Intérieur, il se veut pacificateur, mais c'est démobilisateur en termes de dénonciation de ces barbares. Il fait partie du cercle très restreint sous la Ve République des rares ministres qui n'ont jamais été élus. Il y a eu 28 ministres de l'Intérieur, 3 dont M. Nunez seulement n'ont jamais été élus. Et dans sa fonction officielle, le ministre ne devrait pas aller sur ce terrain-là, car en dénonçant une prétendue récupération politique, il fait lui-même de la politique de manière maladroite et incontrôlée. En fait, si on peut dire face à un tel assassinat, c'est parce que la situation est inavouable et qu'elle est hors de contrôle, précisément.
Alors, c'est peut-être la limite aussi de mettre des technocrates, en quelque sorte, à ce genre de poste. Peut-être Monsieur Nunez était un très bon préfet, mais on le voit depuis qu'il est ministre, quand même, toutes les limites, parce que justement, comme tu l'as dit, il n'est pas élu. Donc, je pense qu'il n'a pas le retour du terrain qu'un élu a. Je pense qu'après l'affaire de la petite Liana, je pense que n'importe quel député, n'importe quel maire a dû se faire interpeller en disant « mais c'est pas possible, comment ça se fait que cette fille, on l'a pas protégée, etc. » Monsieur Nunez, Place Beauvau, sûr que Place Beauvau, Nunez, c'est quelqu'un qui n'a pas quitté Paris depuis très longtemps quand même. Il était préfet de police à Paris, il est parti de Place Beauvau. Je suis sûr que il y a la déconnexion du techno et qui essaye de faire la politique, il le fait maladroitement. Je suis assez d'accord parce que sans prendre à Zemmour dans l'affaire de Louis, sincèrement, je trouve que c'est même dérisoire parce que ce qui est arrivé à Louis, ça choque tout le monde, quelle que soit la couleur politique, quel que soit son vote. Les parents sont choqués de voir qu'un jeune de 17 ans puisse se faire lyncher. On se comprend pas que il est lynché par des jeunes qui ont son âge, enfin. Et il n'y a pas de réponse précise à porter.
Monsieur Nunez a une certaine stature, pas par lui-même, mais en faisant ce type de commentaire, il descend de son piédestal de ministre de l'Intérieur et c'est désolant.
Non, mais en plus, il est sous la domination idéologique de la gauche. En réalité, Laurent Nunez, on sent qu'il flippe de ce que vont pouvoir penser Le Monde et France Inter de ses discours et de son action. C'est là aussi qu'on voit
Parce qu'il n'est pas élu.
Mais c'est là aussi qu'on voit le problème de ce bloc central à la con, c'est que c'est vrai, on peut pas passer de Blanquer à Pap Ndiaye et on peut pas passer de Retailleau à Nunez.
En fait,
à chaque fois, on a des politiques qui sont complètement différentes. Il faut à un moment donné choisir une direction.
Et parce que Emmanuel Macron sa tête, il est à la fois Blanquer, Retailleau et Ndiaye et Retailleau, mais dans sa tête.
Quand il a martelé qu'il n'y avait pas de lien entre la délinquance et l'immigration, il a commencé en se décrédibilisant.
Joël Dagosséry.
L'élection, ça fait pas pousser les coronesses, excusez-moi. C'est pas parce qu'on n'est pas élu qu'on est élu que tout d'un coup on devient très courageux. Enfin, je veux dire, là, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est pas la situation, le fait de Monsieur Nunez. De Sarkozy, ministre de l'Intérieur, en passant par Castaner, jusqu'à aujourd'hui Nunez. Enfin, on est en train de récolter les fruits pourris de plusieurs années de manque de courage et de vision et de politique anticipatrice. Donc non, je crois pas que ce soit l'élection. Je pense qu'un technocrate peut très bien s'entourer, entendre ce qui revient du terrain, prendre des décisions courageuses, et un homme qui est élu peut aussi le faire. Le problème, c'est que qu'il soit technocrate ou qu'il soit élu, en fait c'est du pareil au même. Je veux dire, on a affaire aux mêmes gens qui manquent de courage.
Oui,
tout
mais
simplement.
Quand tu es élu, Joël, c'est une nuance, mais quand tu es élu, ce qui n'a jamais été mon cas, tu as une relation avec les Français qui est un toucher de balle qui est différent.
Justement, le débat vient d'être lancé par les GG, par les grandes gueules. Il suffit de reprendre la litanie des noms. Louis, Liana, Elias, Thomas, Lola, pour n'en citer que quelques-uns, des faits divers dramatiques qui mettent en cause à des niveaux divers l'État. Les critiques viennent des responsables politiques. Laurent Nunez dénonce de la récupération politique. Est-ce qu'il a raison ou tort? Et c'est vrai qu'il pointe du doigt essentiellement le Rassemblement National ou Reconquête d'Éric Zemmour. Alors, est-ce qu'il a raison, Laurent Nunez?
C'est vrai aussi qu'il y a de la récupération politique. Il faut pas être naïf non plus. Bien entendu, Éric Zemmour et Jordan Bardella ou Marine Le Pen sautent sur l'occasion à chaque fois pour dire, voyez, on n'est pas protégé, on est dirigé par des incompétents. Mais ça, c'est le jeu politique.
Et même la
il serait au pouvoir, l'opposition ferait quand même.
Mais c'est même la démocratie.
Et ça fait partie de la démocratie.
Ce sont des gens qui nous représentent. Bah oui. On a élu des voix. Bah oui. Et ben ces voix s'expriment à travers.
Bah, après, on est d'accord voilà, ou pas.
Bah, exactement. Ouais. Jordan Bardella ou quelqu'un d'autre exprime la voix peut-être de ses électeurs. Donc non. Ça, c'est de la démocratie, que tu le veuilles ou non.
On pourrait parler de récupération si les propos en question étaient indécents. Ça n'est pas le cas ni chez Zemmour ni Mme.
Non, mais je veux dire, c'est le rôle de l'opposition et c'est aussi dans un jeu politique. Mais je veux dire,
une dernière chose, d'autant que, c'est, comme on dit, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on a ces quelques cas qui deviennent très médiatisés parce qu'ils sont particulièrement choquants et parce que dans ces cas-là, l'État a particulièrement failli. Mais attention, ce sont quelques emblèmes d'un phénomène en réalité beaucoup plus massif. Donc la récupération, elle n'est pas si disproportionnée que ça par rapport à la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est que des Lola, des Matisse, des Louis, des Liana, des Philippines, des Elias, il y en a en fait très 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 souvent.
Absolument.
On vous attend au 32-16, il est 9h15, un sauvagement. Est-ce que c'est de la récupération politique que les responsables critique avec à travers ces morts dramatiques, ces assassinats ou ces meurtres? Vous venez en parler avec les grandes gueules en direction RMC, la radio, RMC Story, la télé.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Prenez la parole avec les GG, avec les grandes gueules, comme tous les jours, en direct sur RMC, RMC Story. Charles Consigny, l'avocat, est là. Emmanuel Deville, chef d'entreprise aussi. Joël Dagosséry, la coach de vie. On revient sur ces morts dramatiques dont on a beaucoup parlé, qui ont fait qui ont provoqué beaucoup de commentaires dans la presse. Les morts de Louis, Liana, Elias, Thomas, Lola et le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui accuse l'extrême droite de récupérer. François, bonjour.
Oui, bonjour.
François de Saône-et-Loire, vous êtes charpentier, couvreur. Qu'est-ce que vous en dites? Il a raison de critiquer Laurent Nunez, ce ministre de l'Intérieur?
Non, pour moi, il n'a pas raison de critiquer parce qu'il y a quand même un ensauvagement, c'est quand même flagrant. La récupération politique, bah écoutez, c'est quand même le sujet vraiment chaud du moment. Je pense que l'affaire de Louis a vraiment choqué beaucoup de gens. J'appelle parce que j'ai une expérience, j'ai vu plusieurs expériences dans des foyers d'accueil sur Mâcon où j'ai même passé un entretien pour être surveillé en nuit. Les jeunes n'ont pas le droit de sortir, mais techniquement, on vous dit que vous n'avez pas le droit de les en empêcher. Mettez-vous à ma place. Moi, je suis charpentier, je suis quand même pas d'une finesse extraordinaire. On me dit, le jeune, il n'a pas le droit de sortir. Bah, pour moi, il n'a pas le droit de sortir. Mais on dit spécifiquement, vous ne pouvez pas l'empêcher.
Et il y a quelque chose qui ne colle pas, là.
Bah non, c'est pas possible. Les structures ne fonctionnent pas. Ma femme est professeure de collège sur Mâcon. Les jeunes qui rentrent en foyer, souvent, ils ressortent, c'est encore pire. Ouais. C'est encore pire. Ils sortent, ils ont des mauvaises fréquentations. Il n'y a aucun contrôle. C'est des structures qui ont 400 salariés. C'est de l'argent public, quoi.
Ouais.
Donc, pour moi, de mon point de vue, il y a quand même un problème structurel au niveau de l'État, quoi.
Et ce qui est terrible, c'est que Laurent Nunez, comme à chaque fois, fait mine de découvrir le problème, puisqu'il dit, oui, il faut quand même regarder la prise en charge des enfants dans les structures comme celle de l'ASE, alors que ça fait quand même des années qu'on dénonce cela. On sait ce qui se passe dans ces aides, dans ces foyers d'aide sociale à l'enfance. Donc, c'est là, à mon avis, ce qui provoque l'énervement des gens, c'est qu'on a des ministres qui, tout d'un coup, redécouvrent à chaque fois le problème qui a été posé maintes fois, en fait.
C'est exactement ça. Tout le monde le sait, tout le monde est au courant.
Bah, oui.
Tous les salariés dans ces structures, vous ne pouvez pas me dire qu'ils ne sont pas au courant. Les gens le voient au quotidien. Pour moi, ces gens sont aussi coupables de passivité. Ça ne peut plus durer.
François, ce que l'on attend des politiques, ce n'est pas de la démagogie ou de la petite phrase. Vous savez, qui va faire des likes et des milliers de vues sur les réseaux sociaux. Voilà. Ce que l'on attend d'eux, c'est qu'il y ait soit il y a une proposition vraiment concrète. On se dit, ah ben là, il a raison. Là, c'est cette proposition-là qu'il fasse. Parce que si c'est pour reconquête, se servir des prénoms en disant c'est un problème d'immigration, moi, je trouve que c'est un peu court de la part d'Éric Zemmour. Le problème, c'est plus la manière dont, vous le disiez vous-même aujourd'hui, l'ASE est structurée. On avait reçu cet auteur qui a a fait un livre sur l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, qui s'appelle La Fabrique du Malheur. Et on se rend compte que c'est plus aujourd'hui un problème depuis des années, des décennies, de comment on réorganise l'ASE, quels moyens on met, etc. Et c'est pas une question, et c'est pas une question de prénom, François. D'ailleurs, vous en êtes vous-même l'illustration avec ce que vous dites, Joël. Tu voulais réagir à ce que dit François et ce que je disais aussi.
J'ai oublié ce que je voulais dire, pardon.
C'est intéressant. Merci, récupère tes neurones. Et puis tu reviens nous voir dans un instant.
Ça, c'est les effets, tu sais, secondaires de la canicule.
Ah, c'est ça.
On nous a beaucoup dit que, attention, il fait moins chaud, mais ça va continuer dans la tête de certains.
Prends deux têtes d'un Joël pour réagir.
Bien joué, François.
C'est vrai qu'on pourrait passer Joël plutôt à des réactions ponctuelles au cours de l'émission qu'à une participation pleine et entière dans l'émission.
François, je vous remercie dans tous les cas d'avoir été avec nous. François, vous avez dû souffrir là ces derniers jours en tant que charpentier couvreur.
Ça a été très 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 compliqué. Ça a été très compliqué. Mais bon, je suis à mon compte, donc je peux gérer. Et j'aimerais juste dire. Ouais. Je suis un grand fan de Charles Consigny.
Merci François, vous êtes un grand homme.
Eh bien, il faut raconter justement votre quotidien et ce que vous pensez nécessaire pour votre travail sur le site de Charles.
Absolument, absolument. Je serais ravi, cher François. Vous allez sur francelib.com, vous envoyez un petit mail et comme ça, on viendra vous suivre sur une journée de travail. Si ça peut être pendant la canicule, c'est encore mieux.
Ce sera avec plaisir parce que, et en plus, mon fils est à Poligny.
On est voisins. En plus, on est voisins.
Merci François d'avoir été avec nous.
À
bientôt, bonne journée.
Allez,
François
bonne journée.
De Saône-et-Loire.
Ce week-end à Poligny.
On va aller dans l'Hérault cette fois-ci retrouver Gérald qui est commercial. Bonjour Gérald.
Bonjour à tous.
Alors, est-ce que les politiques ont raison ou au contraire ils instrumentalisent à des fins juste de buzz et sans être très efficaces, dites-moi.
Alors non, bien sûr qu'ils ont raison. Les faits divers dont vous parlez, suite à ces récupérations, Lola, Mathis, Thomas, Philippine, Louis, etc., sont des faits de société, ne sont plus des faits divers, en fait. Ici, les récupérations politiques, elles sont essentielles parce qu'elles montrent, en fait, tout simplement le réel. Et la droite montre le réel pendant que, elle, la gauche, contredit ce réel. S'il n'y a pas de récupération, en fait, on n'a pas d'infos. On ne sait pas ce qui va se passer. On n'a pas tout simplement les médias qui vont aussi reprendre tout simplement ces types de récupération là.
Exactement.
Donc la gauche, elle, quand elle va récupérer par exemple la mort de Naël, ça dérange personne. On n'entend pas aussi nos gouvernements en fait critiquer ceci, critiquer cela. C'est tout à fait normal. Et justement, elles vont s'allier avec cette gauche là, pour mettre les comment pourrais-je dire ça, les sanctions en fait adéquates.
Ou quand Gérald, vous avez raison. Ou quand François Hollande était allé voir le jeune Théo. Vous vous souvenez qu'il avait pris un coup de matraque télescopique de la part des policiers. Et François Hollande était allé le voir à l'hôpital.
Chacun
ses faits divers, chacun choisit. Vous avez raison, Gérald. Allez-y,
après,
continuez.
Après, cette récupération, elle est évidente. Parce que je suis désolé de dire ça, je vais évidemment choquer la plupart de personnes. C'est que, en fait, les enfants, les jeunes qui se font tuer, ils sont blancs. Et ils se font tuer par des mal. Eh oui, mais je suis désolé, c'est le constat qui est réel par aujourd'hui une population maghrébine ou sous le QTF.
Liana, vous avez raison, Liana, c'est effectivement une petite blanche qui s'est fait tuer par une population maghrébine.
Les gamins tués à coups de pied dans la tête, les gamins à coups de couteau, les meurtres, etc. Excusez-moi. C'est normal que la récupération, elle se fasse de droite et c'est un constat aujourd'hui que les Français font.
Excusez-moi, mais vous racontez n'importe quoi. Vous racontez n'importe quoi. Il faut arrêter.
Et je pense que tous les auditeurs qui m'écoutent sont d'accord avec ça parce que c'est tout simplement des constats qui passent et c'est tout à fait logique que le monde aujourd'hui actuel se remiffe. Et vous verrez demain, on en parle beaucoup, ça va péter.
Alors attendez, Gérald, que je vais vous
répondre. Pas dans le même pays. Je crois que vous n'aviez pas donc vécu dans le pays qui a été gouverné par la droite pendant des années et des années.
Ça fait longtemps maintenant.
Oui, ça fait longtemps.
Mais c'est pas d'aujourd'hui.
Mais les problèmes, la dette, vous savez, c'est pas apparu avec Macron ou même avec Hollande.
Ça fait 14 ans quand même.
Oui, 14 ans, bien sûr.
Ça fait 14 ans que la droite n'est pas vous.
Oui, d'accord.
Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron soit un homme de droite.
Mais les problèmes que nous vivons aujourd'hui datent de 30. On est tous d'accord pour dire que ça date de 30 à 40 ans. Donc, soit vous n'avez pas vécu dans le même pays qui a été dirigé par la droite et le Karcher, d'accord ? Parce que le Karcher qu'on nous a vendu, vous voyez les résultats aujourd'hui ? Bon, donc merci. Donc moi, j'achète pas ce truc de
tu la regrettes droite, que le Karcher n'ait pas été
réaliste.
Passé.
La droite est réaliste, la gauche nous ment et tout. Ce sont tous des zéros. Vous comprenez ? Vous avez affaire à une classe politique de nullards. Donc mettez-vous ça dans le crâne.
Surtout que
et votez
Bruno
bien.
Retailleau qui a été ministre de l'Intérieur, il est droite. Gérald Darmanin est ministre de l'Intérieur, venait des Républicains aussi.
Donc les OQTF qu'on a vu passer, c'était sous Darmanin, c'était sous Retailleau.
Oui, mais on reconnaît que Retailleau, on lui a reproché d'en faire trop sur les OQTF. Le président de la République lui-même lui reprochait d'être trop sévère avec l'Algérie par rapport à ce dossier et par rapport à d'autres. Oui. Donc on peut pas dire que Retailleau était en cohabitation avec finalement la Macronie.
Oui, mais il fallait pas y aller. Je veux dire, vous avez des gens qui sont dans la compromission, totale.
Mais c'est pas ça dont parlait Gérald. Gérald indiquait, à l'exception de Léana, que tous ces drames emblématiques, comme le disait Charles, qui ne sont que la face apparente de l'iceberg, et bien moins encore, sont liés à la même typologie d'individus criminels.
Non, parce que Gérald dit, ce sont des enfants blancs qui meurent. C'est pas vrai. Il y a des enfants de toutes les couleurs qui meurent ici. Vous avez le trafic de drogue qui fait mourir des enfants d'origine de je ne sais quelle origine.
Maghrébine ou africaine.
Voilà, exactement. Donc il faut arrêter de nous raconter n'importe quoi. Il y a pas que des enfants blancs qui meurent en France. On a un problème de jeunesse.
Voilà, la question qu'on n'a pas résolue, c'est celle-là, c'est qu'on n'a pas trouvé les bonnes solutions pour la délinquance et la violence des mineurs, et qu'on a toujours ce regard qu'on porte en disant ce sont
c'est de la poigne.
Bah oui, mais il faut bien, on les juge toujours comme des enfants,
alors qu'ils
se comportent comme des adultes. Qu'à 17 ans, quelle est la différence entre un jeune de 17 ans et un jeune de 18 ans dans la violence? On voit pas vraiment la différence. Et pourtant, le jeune de 17 ans, et notamment dans l'affaire Louis, ça c'est intéressant parce que il y a trois mineurs et deux adultes. Enfin, il y a trois jeunes qui ont 16-17 ans et les autres, ils ont 18-19 ans. Eh ben, ceux qui ont 18-19 ans risquent perpète et ceux qui ont entre 16 et 17 ans, risquent la moitié. Est-ce que c'est normal, par exemple?
Absolument pas. Il n'y a pas de dissuasion judiciaire. Si ces voyous savaient qu'ils risquent des peines très graves, qui vont déstabiliser leur vie et qui vont les faire souffrir, évidemment qu'ils
s'auto-dissuaderaient.
Il faut faire sauter toutes les excuses de minorité, tous les cliquets d'âge. Tout ça, c'est complètement dépassé, puisqu'on a même des voyous à 10 ans maintenant.
J'attends encore que l'affaire Louis avance, parce que je ne trouve pas très net les parents. Je suis désolée.
Oui.
Parce qu'on me parle on me parle d'un enfant qui a été placé par ses propres parents. On parle d'un enfant qui a un TDAH ou qui est neurodivergent et que ses parents n'arrivaient pas à gérer. Donc moi, je suis désolée, il y a aussi une politique familiale à faire. Il y a plein de choses à faire au lieu juste de dire ah ben oui, c'est les petits blancs qui meurent et puis c'est les noirs et les arabes qui les assassinent.
Gérald, on va écouter Thomas qui est Thierno, qui est avec nous en Gironde. Bonjour Thierno.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous en dites, Thierno, alors? Il y a trop de récupération politique?
Ouais, il y en a trop, on voit la preuve, là. Hein. Ça part dans tous les sens, c'est les Arabes, c'est les Noirs. Moi, je pense qu'en fait, il en faut de la récupération politique. C'est nécessaire dans ces situations-là, mais il en faut de la bonne. Mais là, on part, même sur le plateau, on est un peu divergent, là. On diverge un peu. Monsieur Nunez n'a pas été politicien, donc il sait pas il faut juste des couilles, il faut juste des coronex pour réagir, les gars. Pas parce que c'est la gauche, la droite, le centre. Non. Tant qu'on n'a pas le courage de prendre les bonnes mesures, on n'y arrivera pas, qu'on soit de gauche, de droite ou du centre.
Quelles sont les bonnes mesures, alors?
Ben, les bonnes mesures, c'est pas à moi de vous les donner, mais c'est de prendre ses responsabilités et l'ASE, le problème de l'ASE, on va s'y consacrer, mais parce que ça dure depuis des années. Qui ne connaît pas les problèmes de l'ASE? L'auditeur le disait tout à l'heure, les surveillants n'ont pas le droit d'empêcher les gars. On a des documentaires tout le temps qui ressortent, les petites fillettes de l'ASE qui font de la prostitution. Mais c'est des problèmes que tout le monde sait. Et cette récupération politique mauvaise de la politique politicienne nous empêche de se consacrer à la bonne réflexion, à prendre les bonnes mesures. Là, Zemmour va parler, l'autre va reprendre, et vous, sur le plateau, on va envenimer, on va dire c'est la gauche, on va dire c'est la droite, et on s'en sortira jamais. Tant qu'on n'est pas lucide et pour prendre les bonnes décisions, qu'on arrête ces problèmes de parti, on n'y arrivera pas. La droite, elle a été au pouvoir. Qu'est-ce qui a marché depuis? Rien. Pendant que Sarko était au pouvoir, qu'est-ce qui a marché? Rien. Rien. Donc, tous ces politiques, c'est de la...
Mais ce que vous dites, Thierno, ça illustre finalement le cœur du débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis toutes ces années, les problèmes sont connus. Et ce qui nous étonne, c'est qu'ils ne soient pas résolus. Quoi. C'est ça aujourd'hui. Parce que les rapports sur l'aide sociale à l'enfance, l'une des premières à en avoir parlé ici dans Les Grandes Gueules notamment, c'est Elina Dumont, l'intervenante sociale, qui nous a dénoncé le scandale de l'ASE, qui a montré ce qui dysfonctionnait au sein de l'ASE. Elle a alerté les pouvoirs publics ici même à sa manière. Elle avait fait des reproches à certains responsables et on voit que ça dysfonctionne. La lenteur administrative, le traitement des
mais
dossiers
parce que dans ce pays,
dans l'affaire
oui,
Liana, c'est pareil.
Mais Alain, parce que c'est politique, parce que dans ce pays, on se préoccupe plus de ce que va penser l'électeur retraité que jeunes de 17 ans qui de toute manière n'iront pas voter, ne votent pas et n'iront sans doute jamais voter. Donc en fait c'est ça. Et donc effectivement on va plus se préoccuper de savoir s'il faut désindexer ou pas les pensions de retraite, est-ce qu'il faut rembourser ou non les cures thermales. Là il y a du débat. Mais savoir effectivement comment on protège mieux les jeunes que le confie à une institution comme l'aide sociale à l'enfance, bah voilà, ça fait pas de débat à l'Assemblée.
Tierno, je vous remercie d'avoir été avec nous. À bientôt pour une nouvelle discussion, Tierno.
À bientôt.
Au revoir, Tierno, du côté de la Gironde. Louis, Liana, Elias, Thomas, Lola, est-ce qu'à votre avis, il y a trop de récupération politique, oui ou non? On en a parlé là pendant 20 minutes, vous dites non à 68%. Dans un instant, le on s'en fout pas, un colloque sur les ovnis à l'Assemblée nationale, 150 euros dans le métro d'amende pour avoir transporté une télé trop grande, les tests antidrogue faits dans les ministères, on n'aura pas les résultats, ils les gardent pour eux.
On veut savoir.
Est-ce qu'on s'en fout ou pas? Restez avec les GG en direct sur RMC, la radio RMC Story, la télé, il est 10h25. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. Attention, on va donner le top départ pour gagner quoi? La prime de match. C'est parti. Tirage au sort avant 20h aujourd'hui. Coup de fil qui va arriver sur tous ceux qui se sont inscrits. Potentiellement le gagnant de 77 500 euros. La prime de match, 77 500 euros. À vous de jouer, à vous de gagner. Vous envoyez but par SMS au 732-16. But par SMS au 732-16. Le tirage au sort va avoir lieu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va tirer au sort un numéro de téléphone. On appelle au moment où votre téléphone sonne. Vous devez donner la somme, 77 500 euros. C'est du gain de jeu. C'est exonéré d'impôts. Soyez vigilants. Bien à l'écoute d'RMC, coup de fil avant 20h. Ça peut tomber dans les GG, chez Estelle, Moscato, Rotten. Attention, 77 500 euros à gagner. Si c'est pas gagné aujourd'hui, ça s'enrichira de 500 euros à chaque but marqué à partir de ce soir. Il est 10h moins le quart, c'est parti pour le on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout, on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Inès Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Les ovnis s'invitent à l'Assemblée nationale le temps d'un colloque inédit, les GG, sur la vie extraterrestre. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Emmanuel?
Complètement.
Oh. Joël?
On s'en fout pas.
Charles?
À moitié.
Bon, l'initiative vient des députés Arnaud Saint-Martin et les filles et Pierre Henriet, Horizon. Ils veulent ainsi faire le point sur l'état des connaissances sur le sujet, au-delà des fantasmes. L'idée est de savoir où en est la France dans la recherche de vie extraterrestre. Joël.
Non, je trouve pas ça complètement délirant. Ça fait quelques mois que je m'intéresse à la physique quantique, donc je crois qu'il y a plusieurs réalités.
Mmh.
Voilà, donc... Là, j'ai une tête, mais...
Ça commence
vrai.
Mal.
Donc,
on l'a vu tout à l'heure quand t'as oublié ce dont tu voulais parler.
Non, c'est vrai, je m'intéresse vraiment.
Tu étais dans ta propre réalité.
Je commence à croire qu'il y a plusieurs univers, plusieurs réalités qui coexistent. Donc, c'est pas mauvais d'aller faire des recherches scientifiques sur ça. Et en plus, objet volant non identifié, c'est pas forcément vaisseau spatial et tout. Moi, je trouve que c'est intéressant de savoir si le pays est survolé ou les centrales nucléaires ou les bases militaires par des choses qu'on n'aurait pas identifiées. Moi, pourquoi pas? Donc, non, je suis ouverte.
Charles.
Non, moi je pense que si la vie extraterrestre existe, je ne pense pas qu'elle se manifeste par des ovnis.
Par quoi alors?
Bah, je pense pas qu'on soit visité par
par E.T.
des êtres qui se baladent comme nous dans des drones, si tu veux. Je pense que ça prend d'autres formes. Mais pourquoi pas faire ce colloque? C'est pas non plus un non-sujet, c'est pas un sujet inexistant.
Quand les États-Unis déclassifient justement,
c'est quand même intéressant. Rien. Je
t'es de la
ça.
Com ou pas?
Non, je pense que
ils s'occupent. Non, mais ils ont rien à faire. L'Assemblée, c'est ça?
Bah non, écoutez, bon, on passe à la suite. Je vois que ce sujet vous inspire. Les tests anti-drogue, les GG, pratiqués sur les ministres, leurs cabinets et autres hauts fonctionnaires resteront confidentiels. Eh oui. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Emmanuel?
Non, on s'en fout pas.
Charles?
On s'en fout pas.
Joël?
On s'en fout pas.
Sébastien Lecornu, qui avait annoncé la tenue de ces tests, a fait le choix donc de ne communiquer ni l'identité des personnes contrôlées, ni les éventuels résultats positifs. Cette campagne est menée dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic au nom de l'exemplarité de l'État, Emmanuel.
Il y a un manque de courage parce que il faudrait faire une différenciation pour les personnes publiques, à savoir les ministres qui ont une charge publique, qui ont été élus pour la plupart. Ça devrait être rendu public. Concernant les fonctionnaires qu'on ne connaît pas, on peut comprendre une confidentialité de principe.
Et alors si on sait, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on apprend que Monique Barbu, finalement, est testée positive.
Ben on c'est la, non au hasard. Bah, on la dégage immédiatement, évidemment.
Ah bon?
Immédiatement.
Bon, Joël.
Non, mais déjà, moi, mon côté un peu Paris Match Gala s'active et j'ai envie de savoir qui. Voilà, j'aime bien
qui
les
sniff,
qui se drogue, voilà, qui sait, machin, etc. Ça, je veux savoir. Et deuxièmement,
donc en fait, vous partez du principe.
Ça fait tomber un petit sachet blanc. Joël.
Deuxièmement,
non mais c'est, vous partez du principe qu'il y a forcément des ministres qui ont été testés positifs.
Ah mais alors. Forcément.
Ah oui, ah, bah, d'accord. Bah,
écoute,
vous avez une grande confiance.
On a eu plusieurs affaires quand même de part et d'autre, que ce soit à droite, au centre, à gauche, de gens quand même qui sont pas clean. Donc moi j'ai envie de savoir qui. Et puis deuxième chose,
Catherine Vautrin.
Bah je trouve que ça devrait être publié dans le sens où le trafic de drogue fait des millions de morts, enfin des millions de morts dans le monde, ici des milliers, et je veux savoir qui alimente ce truc quand même. Enfin il y a des consommateurs, et notamment des consommateurs célèbres qui sont censés quand même être respecter la loi,
c'est parti.
qui viennent quand même alimenter
ce trafic. C'est parti cette histoire. C'est qu'il y a un conseiller de Sébastien Lecornu qui a fait une overdose et d'ailleurs il a été licencié. Ouais. Et c'est à partir de là que Lecornu a été un peu sensibilisé, c'était cet hiver, et a décidé de faire ce test pour montrer l'exemplarité. Oui,
mais c'est à partir d'un gars qui fait une overdose, dire je veux savoir ce qui se passe dans tous les ministères, c'est que quand même il a dû avoir des remontées qui n'étaient pas piquées des hannetons, si
Alain,
tu veux, tu vois.
Alain. On sait que la drogue est partout.
Oui, bien sûr.
Elle est aussi forcément dans les ministères. Elle est dans les rédactions de journalistes. Elle est partout. Elle est dans les cabinets d'avocats.
Ah bon?
Elle est, mais bien sûr.
Non, mais c'est que de la communication.
Quand il y a 4 millions de consommateurs quotidiens, oui, excusez-moi.
C'est que de la communication, puisqu'ils sont prévenus à l'avance et ensuite on donne pas les noms.
Joël dans sa Range Rover.
Charles.
Je sais pas, non, peut-être qu'on devrait lancer même ici, dans les locaux.
Mais nous, on n'est pas des politiques, on n'a pas un devoir d'exemplarité.
Un grand test de dépistage.
J'ai cherché.
Non, mais en revanche, ce qui est intéressant quand même, c'est que je pense que s'ils refusent de rendre public les résultats, c'est quand même qu'il y a dû y avoir une petite moisson, si tu veux.
Ah ben, je pense.
Parce que, tu sais, on reste positif à certains produits à certains temps après les avoir consommés. Donc, même s'ils étaient prévenus avant, une fois qu'ils sont testés, ils peuvent quand même être positifs à certains tests. Et le fait que le gouvernement refuse de rendre les résultats publics, à mon sens, c'est que il y aurait peut-être deux cas isolés, peut-être qu'ils diraient on en a trouvé deux, on a pris des mesures. Le fait qu'ils disent rien du tout, je trouve ça assez suspect. Et moi, ce que je pense, si tu veux, c'est que quand même, quand on sert le gouvernement de la France, personne ne t'y oblige, si tu veux, à travailler dans un cabinet ministériel, à être ministre ou à être député. Et donc, il faut faire un peu des choix dans sa vie. Si t'as envie de te schnouffer, consommer toutes sortes de produits, tu peux toujours travailler dans la mode, dans l'entertainment, dans la finance, tu peux faire ce que tu veux.
Bah, c'est interdit aussi.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas à la fois vouloir les ordres de la République et en même temps faire n'importe quoi. Je pense qu'il faut choisir.
Et dernier point, dans la mesure où il n'y a pas de communication sur les résultats, on peut même avoir un très gros doute sur le caractère universel des tests qui ont eu lieu.
Il n'a pas tort, ça jette l'opprobre sur tout le monde. Parce qu'on dit, si on nous dit rien, c'est que peut-être on n'a pas envie de dire qu'il y a tant de ministres.
Non, surtout sur le fait que les tests ont eu lieu pour tout le monde. Tout ça, c'est bien.
Mais
en plus, c'est pas.
À partir du moment où on ne rend pas public les résultats, on a un doute sur la réalité des tests.
On va essayer de s'en procurer dans les GG. Je vais vous tester et on rendra public les résultats.
Avec plaisir.
Les GG, cette info du Parisien.
Tu préviendras quel jour quand même pour certains.
Non, test
inopiné. Ça sera
inopiné.
Les tests inopinés, mais ça sera mardi prochain.
Cette petite info du Parisien, les GG à Paris, un usager de la RATP a écopé d'une amende de 150 euros hier pour avoir transporté une télévision dans le métro. Est-ce qu'on s'en fout ou pas?
Non.
Emmanuel,
non.
Charles.
On s'en fout pas.
Et ma chère Joël.
On s'en fout.
Charles.
Non, bah c'est une honte. Moi, je demande. Je sais plus qui dirige la RATP désormais, puisque ce n'est plus Monsieur
Castex.
Je demande à l'actuel directeur de la RATP de licencier l'agent qui a infligé cette amende.
Lui faire passer un test de dépistage.
De supprimer la norme qui, soi-disant, interdit de transporter une
idée. Il n'a fait que respecter
je suis désolé, je demande vraiment, je considère que les agents publics doivent faire preuve de discernement.
Xavier Piechazik.
Alors, je demande à Mister Piechazik.
Il a été nommé en février.
De virer cet agent. Je suis désolé, c'est une urne. On ne peut pas à la fois forcer les gens à prendre le métro, ce qui est quand même le cas à Paris. Hein. Concrètement, on est obligé de prendre les transports en commun.
Et un sur deux n'est pas climatisé.
Et en plus, les verbaliser quand les gens le prennent, et le prennent y compris, il aurait pu prendre un Uber.
C'est quoi, c'est un excès de zèle.
Mais ça coûte.
C'est de la connerie pure. C'est un mélange de connerie et de méchanceté. Souvent, la méchanceté vient de la connerie. Moi, je suis désolé, cet agent, je suis désolé.
Reconnais que dans le métro, où on est déjà serré les uns avec les autres,
moi, je propose une règle.
Qui fait 2 mètres sur 1 mètre, c'est quand même pas très pratique pour tous ceux qui sont à côté.
Mais
je mets au même niveau ceux qui trimballent leur trottinette, qui la
regarde, on a bien le droit d'avoir sa valise dans le métro.
Dans ce cas-là, un parent n'a pas le droit d'avoir une poussette. Moi, je veux bien, mais alors dans ce cas-là,
il devrait y avoir une règle.
Tout le monde, alors.
Non, c'est pas ça, on n'enlève pas tout le monde. Il y a peut-être un petit peu de discernement à avoir. Poussette à un enfant dans le métro, on comprend. Après, quand tu trimbales un emballage volumineux, c'est un peu.
Non, il doit y avoir une règle, c'est qu'on a le droit de prendre tout ce qu'une seule personne peut porter.
Voilà.
Et non pas de procéder à un déménagement à trois. Et le nouveau président, là, qui a un nom de médicament, il devrait légiférer en la matière.
Non, mais c'est honteux. Mais tu verras qu'il n'y aura aucune suite. De toute façon, les contrôleurs RATP...
Souviens-toi, ils avaient enlevé l'amende. Tu te souviens de cette jeune femme, je crois, qui trimballait une plante.
Oui.
Et ils lui avaient mis une amende et finalement, ils ont retiré l'amende suite à la médiatisation.
Est-ce qu'ils sont toujours intéressés au nombre d'amendes qu'ils mettent les contrôleurs?
Oui, si, bien sûr, ils ont une prime.
La prime sur les amendes a supprimé d'urgence.
Pardon, mais quand tu vas...
Ils escroquent des touristes.
Quand tu vas à métro Stalingrad, moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, il y avait un fumeur de
crack là-bas.
C'est super. Les gens qui vont là-bas,
c'est une correspondance.
Tu
sais, Joël, Joël, tu sais, les gens
changent ailleurs.
Tout le monde n'est pas
d'accord.
Tout le monde ne reste pas dans le
6e. Anaïs, les tests.
Ça m'arrive d'être dans le nord de Paris, tu sais. Et donc, il y avait un fumeur de crack. Il y avait un type qui allumait sa pipette derrière sur le. Bon, voilà. Donc, est-ce que c'est moins gênant que le type qui transforme sa télé?
Est-ce que tu as encore oublié ce que tu devais dire?
Non, pas du tout. Non, je dis que je m'en foutais.
Mais c'est pas grave. T'as forcément un avis.
Comment il s'appelle alors le patron de la RATP?
Excusez-moi. Attendez. Je regarde l'heure. Il est 53. Il vous reste une minute pour vous inscrire pour la prime de match. S'il vous plaît, il y a des priorités. La prime de match de 77 500 euros. Vous avez encore une minute, c'est-à-dire 45 secondes maintenant pour envoyer but par SMS au 732-16. But par SMS au 732-16. Vous êtes inscrit. Ensuite, le logiciel tourne. On prend un nom au hasard avec le numéro de téléphone. D'ici 20h, un coup de fil. Et si vous dites 77 500 euros, la prime de match est pour vous exonérée d'impôts, puisque c'est du gain de jeu. Allez, la suite des réjouissances dans les GG dans les Grandes Gueules avec Charles Consigny, Joël Dagosséry et Emmanuel Devilliers. C'est la deuxième heure des Grandes Gueules qui démarre. Dans un instant, la canicule, la ministre de la Transition écologique dit la clim. Est-ce que la clim, ça empêche la terre de brûler? Est-ce que ça empêche les animaux de mourir? Elle s'appelle Madame Monique Barbu. Elle est ministre de la Transition écologique. On la garde ou on la jette? On la garde ou on dit stop? Ou on la gerte, Madame Barbu? Dit démission, Madame Barbu. 32-16 pour en parler avec les GG, avec les Grandes Gueules. Dépistage pour moi aussi. Allez, à tout de suite avec les Grandes Gueules. La deuxième heure commence en direct sur RMC et RMC Story.
RMC jusqu'à midi.
Les Grandes Gueules.